éclampsie?
Non. Non, chez une femme qui n'a pas fait la pré-éclampsie, on peut faire une éclampsie. Une éclampsie, c'est une des complications phares de la pré-éclampsie. Ça ne concerne que les femmes enceintes, puisque c'est une maladie du placenta. Je vous ai dit la fois passée qu'il y avait un défaut de vascularisation des artérioles spiralées au niveau du placenta. Donc la seconde invasion, là, c'est défaut. Comme ça que le placenta est hypoperfusé. Cette hypoperfusion placentaire, or le placenta c'est l'organe d'échange maternel et fœtal, ça fait que ça libère les enzymes dont je viens de parler, qui sont les responsables de toutes les conséquences.
D'accord. Est-ce que parmi vos patientes, il y en a qui développent ou qui ont développé l'éclampsie?
Oui, il y a toujours des patientes qui développent l'éclampsie. Comme nous avions dit, le patient qui ne vient souvent pas au CPN, aux consultations prénatales, puisque avant d'arriver à cette éclampsie-là, il y a des prodromes, quelques signes qui annoncent l'éclampsie, avant que la femme commence à convulser. Donc elle vient, elle vous dit, ou lors d'une consultation, vous voyez que la personne a des flous visuels, une diplopie, une vision double, des acouphènes, ou qu'elle ait une épigastralgie en barre. Avec ces signes-là, ça vient juste quelques jours avant l'apparition de convulsions.
Que faites-vous en ce moment-là?
Alors, quand une dame vous vient comme ça, vous savez prévenir, vous lui donnez le sulfate de magnésie qui prévient l'arrivée de convulsions. Alors, une femme qui ne fait pas de CPN, et puis vu que ce n'est pas vulgarisé, quand elle fait une pré-éclampsie et qu'elle ne vient pas à l'hôpital, elle va faire certainement une éclampsie. On en a eu des cas et plusieurs cas, nous pouvons dire, qui viennent de milliers un peu ruraux. Les dames qui ne connaissent pas de ces peines, quand elle fait par exemple une éclampsie, elle est en train de convulser ou elle a une vision double pendant la grossesse, elle développe ces prodromes-là. Vu qu'elle vit dans un milieu rural, on est en train de diaboliser ça. On dit que non, c'est une maladie, c'est un sort qu'on lui a jeté ou quoi. C'est que ça se passe dans le milieu rural. Alors quand on vous amène ces genres de dames, elle vous vient dans un tableau tonico-clonique avec des fortes convulsions où elle est même déjà entrée dans la dernière phase, là, la phase 4, la phase des comas, et pour la récupérer, c'est un peu difficile. On en a eu des cas comme ça, de dames qui ne sont pas compliantes aux CPN, aux consultations prénatales, ou au traitement qu'on leur donne de la pré-éclampsie. Quand vous ne suivez pas bien ces traitements, vous risquez de tomber dans cette complication.
D'accord. En dehors des convulsions, y a-t-il d'autres signes qui peuvent caractériser une éclampsie?
Oui, c'est ce que nous appelons les prodromes. Donc la femme, avant qu'il y ait survenu de convulsions, la femme vous dira qu'elle a de troubles de vision. Elle peut avoir une vision double, une photophobie, ou soit elle vous dit qu'elle a des acouphènes, qu'elle entend des bruits dans les oreilles. Une autre vous dira qu'elle a des céphalées occipitales. Chez d'autres encore, ce n'est pas ces signes-là, c'est une épigastralgie là, en bas. Alors quand une dame vous vient avec ces signes, si c'était une pré-éclampsie, qu'elle avait déjà fait la pré-éclampsie, vous dites que là c'est l'éclampsie qui s'annonce et vous prévenez ça en donnant du sulfate de magnésie. Chez des dames, quand elles ont ces prodromes, ces signes-là, qui ne reçoivent pas de sulfate de magnésie, elles vous viennent dans un tableau de coma ou dans un tableau tonico-clonique avec de fortes convulsions là. Et à ce moment-là, vous devez couper ça avec le diazépam et ou le phénobarbital. Ensuite, vous donnez le sulfate de magnésie. Et si elle était enceinte, vite évacuée. Cette grossesse-là, vous la couchez par césarienne et commencez à l'observer en soins intensifs. Quand vous faites une éclampsie comme ça, ça peut se compliquer. Et il y a plusieurs complications qui peuvent arriver puisque le cerveau n'est plus oxygéné.
Quelles sont les autres conséquences qu'une telle situation peut entraîner?
Alors, certaines autres peuvent faire même jusqu'à faire l'AVC, d'autres jusqu'à en mourir puisque tu feras une hémorragie cérébrale. À force de convulser, le petit vaisseau peuvent se rompre et commence à saigner au niveau de la tête, une hémorragie cérébrale, faisant un AVC. Chez d'autres, elles meurent même comme ça.
Vous avez répondu partiellement à une question de Jérémy Moubiaye qui s'intéressait à la prise en charge de l'éclampsie. Quelles peuvent être les répercussions de la crise d'éclampsie sur la maman et sur le bébé?
Sur le bébé, là, c'est la mort fœtale intra-utérin. Si elle commence à convulser, dans le minute qui suit, vous enlevez le bébé, puisque comme la maman n'est pas suffisamment perfusée, ce qui fait que l'enfant aussi sera en hypoperfusion, il va souffrir jusqu'à mourir. Comme le cerveau, c'est l'organe noble, il n'est plus perfusé, c'est que l'enfant aussi, là, il n'est plus perfusé. Alors, il aura une souffrance fœtale jusqu'à ce que l'enfant peut mourir. Si vous l'enlevez à temps, vous faites une césarienne à temps, là, vous pouvez sauver l'enfant.
On peut bien voir que l'éclampsie a des conséquences très désastreuses sur le bébé. Et qu'en est-il de la mère?
Chez la maman, il y a plusieurs conséquences. Comme j'ai dit, elle peut faire un AVC. Le fait que le cerveau soit privé pendant longtemps d'oxygène, elle peut faire des délires, elle peut faire une rupture capsulaire du foie, elle peut faire... Il y a plusieurs conséquences qui peuvent arriver chez la maman. Donc elle peut même perdre une partie de ses membres avec une hémorragie là, intracérébrale, être un poids pour la société. Donc elles peuvent même mourir.
Le bébé, pour le sauver, l'unique solution demeure
une césarienne
rapide.
Oui, oui, une césarienne en urgence. Quand les convulsions commencent, même si la dame a déjà commencé à convulser il y a plus de 30 minutes et que la dame revient après en catastrophe, là, l'enfant a déjà souffert et est déjà parti. Là, vous pouvez même faire la césarienne juste pour sauvetage maternel et l'enfant sera déjà décédé.
Quand une femme a déjà fait une éclampsie, cela signifie-t-il qu'elle va encore en être victime pour les grossesses à venir?
Chez une femme qui a déjà fait une éclampsie, elle a vraiment un haut risque de refaire ça. Mais ce n'est pas pour toutes les grossesses. Dans les consultations prénatales, nous pouvons prévenir chez ces dames pareilles. Quand elle vient comme ça, vous lui donnez de l'aspirine junior, question de prévenir, et vous faites une surveillance de sa tension artérielle. Quand il n'y a pas ces mesures, elle peut le refaire. Elle est vraiment à haut risque de refaire encore une pré-éclampsie ou une éclampsie. Donc elle peut le faire pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou même après l'accouchement, elle peut refaire cette éclampsie-là. Lors des grossesses ultérieures, disons.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VO Afrique.
Pour éviter que les femmes fassent l'éclampsie pendant la grossesse ou après la grossesse, quelles sont les mesures préventives que vous préconisez?
Les mesures préventives que nous mettons en place, premièrement, c'est quand la dame a déjà fait une pré-éclampsie. Quand c'est sévère ou modéré, vous donnez directement le sulfate de magnésie. Quand vous le mettez en perfusion par 24 heures, par 24 heures, ça couvre la dame, vous verrez que ça prévient les convulsions en fait. Donc la dame ne va pas convulser et vous traitez son hypertension là. Et vous lui donnez de l'aspirine junior. Quand vous observez ça et vous faites une surveillance là, avec expectative armée, chez cette dame-là, elle ne fera pas d'éclampsie. Mais lorsque vous lâchez ou lorsqu'elle n'a pas fait ses consultations prénatales, elle n'a pas été éduquée pour mieux suivre l'évolution de sa grossesse ou mieux la surveiller, là, elle peut être susceptible de le refaire.
Y a-t-il des femmes enceintes qui sont plus à risque par rapport à d'autres?
Oui, les femmes à risque, c'est les femmes qui peuvent faire une pré-éclampsie ou une hypertension artérielle s'y rajouter. Donc la femme qui était hypertendue avant la grossesse, elle peut le développer. Ou une femme qui a fait une pré-éclampsie ou chez certaines femmes avec obésité ou on peut dire ça, avec obésité, ils sont susceptibles à faire ça. Ou diabète gestationnel, chez une femme qui a fait une diabète gestationnel ou qui est diabétique, et c'est fort probable qu'elle fasse ça. Ce genre de grossesse, nous les surveillons dès le début.
Okay. Docteur Sungu, si nous prenons 100 femmes que vous suivez, il y en a combien, par exemple, qui pourraient développer une éclampsie?
Chez les femmes que nous suivons, par exemple, si nous prenons cette année 2021, depuis le début, j'ai déjà eu une dame seulement qui a fait la pré-éclampsie. Il y avait la non-observance du traitement qu'on donnait, le traitement anti-hypertenseur qu'on lui donnait, puisqu'elle avait déjà fait la pré-éclampsie. Quand nous lui avons demandé de prendre le produit, de surveiller la tension, si elle pouvait le prendre à la maison, elle avait ces moyens-là, mais elle ne l'a pas fait. Finalement, on l'avait amenée dans un état tonico-clonique. Après, elle a fait même un AVC. Depuis 2021, janvier, il y a une dame, mais ce n'est pas très fréquent en ville ici. Ce n'est pas très fréquent puisque nous faisons des CTN, mais les femmes qui nous viennent de milliers un peu réguliers, rurales, là, c'est là que c'est trop fréquent. Elles ne font pas de consultation prénatale.
Mais est-ce que cette femme, elle a pu garder son bébé?
Oui. Donc, quand elle est venue, elle venait dans les 30 minutes qui suivaient la première convulsion et nous avons fait une césarienne d'urgence. Et là, elle est en train de récupérer ses membres petit à petit. C'est au mois de février, mais là, elle essaie de marcher. Et vous voyez quand même le séquel d'AVC là.
C'est vraiment une très bonne nouvelle que cette femme, malgré l'éclampsie, ait pu récupérer son bébé. Vous venez aussi de dire, docteur, que les femmes rurales sont celles qui sont le plus susceptibles de développer une éclampsie, parce qu'elles ne font pas le suivi prénatal comme il se doit. Quels moyens de sensibilisation mettez-vous en œuvre pour ces femmes-là?
D'ailleurs, c'est le gouvernement qui met les moyens. Le gouvernement met les moyens en jeu pour que le médecin vulgarise cela et font des CPN gratuitement, que le médecin aille même dans des milieux réguliers afin de voir ces femmes. Tout ça, c'est le gouvernement qui doit le faire, mais nous, dans notre milieu, le gouvernement ne le fait pas encore. C'est que nous-mêmes, le médecin, il n'a pas beaucoup d'argent, il ne sait pas le faire de lui-même. Ça, ce sont des structures qui viennent en appui à des centres de formation médicale pour vulgariser cela.
À votre avis, docteur, qu'est-ce qui doit donc être fait pour mener une bonne campagne de vulgarisation, de sensibilisation, afin d'éviter des situations qui conduisent à des drames comme l'éclampsie?
Pour éviter qu'on en arrive là, pour nous, on demande aux bienfaiteurs, d'abord premièrement au gouvernement congolais, aux africains, disons, de soutenir leur structure sanitaire. Le gouvernement doit nous soutenir dans cette démarche-là. Et à part le gouvernement, le bienfaiteur, les ONG qui peuvent venir et soutenir, puisque les médecins sont toujours disponibles pour vulgariser, mais il faut du moyen, on ne sait pas donner plus que ce que nous faisons.
Ok, pour terminer, docteur, quels conseils pouvez-vous donner à toutes les femmes enceintes, mais aussi à leur entourage? Parce que je crois que l'entourage a aussi un rôle à jouer.
Oui, l'entourage a un rôle à jouer. Surtout quand une femme est enceinte pour la première fois ou pour la deuxième fois, quand elle vient souvent, ce genre de femmes-là, elles vous disent « Non, ma maman m'a dit ceci. Oh, telle qui avait eu une grossesse avant moi m'a dit ceci. » Alors, pour cet entourage-là, nous disons que quand une femme a une grossesse, il faut lui demander d'aller à l'hôpital d'abord, premièrement, pour qu'on confirme cette grossesse. Deuxièmement, qu'on fasse un calendrier de suivi de cette grossesse-là. Ça, c'est pour l'entourage. Ils doivent encourager nos femmes à venir dans des structures sanitaires.
Et à la femme enceinte?
Pour les femmes enceintes elles-mêmes, qu'elles viennent en consultation, c'est tout. Qu'elles viennent en consultation et qu'elles apprennent à prendre et à prélever l'attention, l'automésure, là, c'est une bonne chose. Quand elles se reconnaissent hypertendues ou quand elles commencent à développer l'hypertension au cours de la grossesse.
Ok, merci beaucoup, docteur.
Je vous en prie, Nani.
C'était notre entrevue avec le docteur Maurin Soungou, médecin traitant en gynéco-obstétrique à l'hôpital du Cinquantenaire et à la polyclinique Choukrani à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Maintenant, c'est l'heure du carnet de santé avec le docteur.
Cette semaine, dans carnet de santé, les césariennes. Quand sont-elles nécessaires et comment assurer la sécurité des patientes? On en parle. Et un expert discute des défis liés à l'accès à l'accouchement par césarienne en Afrique et partage des solutions. De plus, un casque réfrigérant permettrait de limiter la perte de cheveux durant la chimiothérapie. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Une femme peut accoucher un bébé par voie basse ou par césarienne. La césarienne est une intervention chirurgicale qui permet l'accouchement par incision de l'abdomen et de l'utérus. Elle est réalisée lorsqu'un accouchement par voie naturelle peut mettre la vie de la mère ou du bébé en danger. Pour certaines raisons, telles qu'un travail difficile, une pression artérielle élevée chez la mère et un problème avec le cordon ombilical. Les césariennes sont réalisées parfois sans raison médicale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux d'accouchement par césarienne continue d'augmenter dans le monde, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. La césarienne représente désormais plus de 1 sur 5 accouchements, estime l'OMS. Cependant, de nombreuses femmes meurent soit par manque d'accès, par des erreurs durant la procédure ou suite à des complications post-opératoires. Au Sénégal, une femme est décédée après avoir abondamment saigné et à la suite d'une césarienne ratée la semaine dernière dans un centre de santé de Kédougou. Son bébé a aussi perdu la vie. La tragédie a fait renaître le débat sur la nécessité d'un meilleur accès aux césariennes en toute sécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'en Afrique subsaharienne. Selon les experts, l'accès à l'accouchement par césarienne en toute sécurité est au moins efficace de réduire la mortalité maternelle dans les pays sous-développés. Le docteur Adija Abdullahi Ousmane est professeur d'obstétrique et de gynécologie au centre hospitalier universitaire de Maïdougouri. Elle élabore sur les défis des césariennes et partage quelques solutions.
Pour réduire réellement le nombre de femmes qui meurent pendant l'accouchement, la sensibilisation, l'éducation des filles, l'autonomisation financière, le soutien de la famille, en particulier du mari, sont des facteurs importants. Mais le plus important est de leur fournir les équipements nécessaires, de leur fournir des sages-femmes qui peuvent rester dans le milieu rural, être disponibles dans les hôpitaux et probablement rendre les services gratuits dans une certaine mesure. La césarienne est très sûre et très courante aujourd'hui. Presque tous les médecins sont formés, mais de nos jours, ils ne sont plus les seuls. Certains pays encouragent et forment même des soignants de niveau inférieur, pas seulement des médecins, pour qu'ils puissent pratiquer des césariennes en milieu rural. La césarienne devient donc très utile. Mais le problème reste le manque de sensibilisation, car si je vous donne un exemple des défis auxquels nous sommes confrontés, même dans cet hôpital général, lorsque vous dites que vous voulez encourager la césarienne pour la femme, vous voyez les parents traîner les pieds. Ils vous diront que toute ma génération, tous mes proches accouchent par voie basse. Pourquoi ma femme devrait-elle accoucher par césarienne? Nous avons vu des parents, des mères refuser que leurs filles subissent la césarienne. Néanmoins, il y a des femmes qui peuvent même venir d'elles-mêmes et avoir une césarienne à la demande de leur mère parce qu'elles estiment qu'elles ne veulent pas passer par la douleur du travail. Mais le plus important, c'est de savoir quand elles ont besoin de cette césarienne, en particulier si vous suivez des soins prénataux. Un problème peut être identifié, soit votre bébé n'est pas bien couché ou votre bassin est contracté ou le placenta peut même venir couvrir le vagin et déranger la manière dont le bébé est censé passer et sortir. Et bien sûr, si quelque chose bloque la voie par laquelle il est censé passer, tu dois déloger cette chose qui le bloque. Et lorsque vous délogez le placenta, c'est l'une des causes d'hémorragie qui peut entraîner la mort de la femme. Donc, vous pouvez voir que nous avons toujours une indication. Non pas qu'une femme ait besoin d'une césarienne juste pour le plaisir d'une césarienne. C'est soit l'intérêt de sauver la vie du bébé, soit de sauver la vie de la maman. La césarienne est tout à fait sûre et il a été démontré qu'elle réduit la mortalité maternelle et également la mortalité infantile. L'accès à la césarienne dépend de la disponibilité des prestataires de soins de santé, du cadre hospitalier qui peut pratiquer la césarienne, ce qui est le cas la plupart du temps. Dieu vous a donné 9 mois, vous devez donc vous préparer à la pire des éventualités. Et l'une des pires issues est la possibilité d'avoir une césarienne. Les moyens financiers doivent donc être disponibles. La personne qui va donner son sang doit également être prévenue dès le départ et à la moindre observation des problèmes, cette personne ou cette femme enceinte devrait être amenée là où elle peut accoucher en toute sécurité.
Les autorités chinoises ont approuvé ce lundi un vaccin contre le COVID-19 inhalable mis au point par le fabricant CanSino Biologics pour qu'il soit administré en rappel en Chine. Les scientifiques chinois ont mené un essai clinique sur des patients majeurs ayant déjà reçu 2 doses de vaccin chinois injectable CoronaVac. Après la première injection dans le bras, une vaccination de rappel par inhalation le 28e jour a induit des réponse anticorps robuste, selon les chercheurs. Ils affirment que ces vaccins nasaux pourraient bloquer plus efficacement l'infection que ceux actuellement utilisés par voie injectable et sont plus faciles à conserver. Aucune étude indépendante n'a encore évalué son efficacité. Des scientifiques de plusieurs pays, dont Cuba, le Canada et les États-Unis, mènent également des essais sur des vaccins inhalables contre le COVID-19. Les récupérateurs de déchets de la décharge de Dandora à Nairobi sont exposés à un environnement pollué, provoquant des problèmes de santé tels que le cancer et l'infertilité. Les experts ont sonné l'alarme sur l'environnement toxique, mais les femmes qui y travaillent disent qu'elles ont besoin d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille.
Une fumée âcre s'échappe de la montagne de déchets de la décharge de Dandora à Nairobi. L'Organisation humanitaire internationale Concern Worldwide rapporte qu'environ 10 000 femmes, enfants et quelques hommes travaillent quotidiennement à fouiller dans les piles d'ordures. Ils passent au crible les déchets, la plupart à mains nues, pour gagner leur vie.
Nous cherchons généralement des bouteilles en plastique, des boîtes en carton, des sacs en toile de jute, des eaux et de la nourriture pour les cochons. Pourtant, nous faisons cela sans gants de protection ni bottes en caoutchouc, si bien que nous nous coupons parfois avec les verres.
Les risques pour la santé vont au-delà des éraflures et des coupures. Le programme des Nations Unies pour l'environnement prévient que la pollution atmosphérique créée par la décharge de Dandora présente un large éventail de risques sanitaires, tant pour les travailleurs que pour la communauté vivant à proximité. Il s'agit notamment de troubles cutanés, de cancers, d'anomalies respiratoires et de troubles sanguins.
Le plomb et le mercure sont des métaux lourds et la plupart du temps, les femmes qui travaillent dans les décharges inhalent et ingèrent en même temps ces métaux lourds. Cela n'affecte pas seulement la santé reproductive, mais aussi les femmes et la plupart d'entre elles finissent par avoir un cancer. Rappelez-vous, le mercure est l'un des principaux métaux associés au cancer et le plomb aussi.
Winfried Wandira, mère de 6 enfants, passe ses journées de travail à remplir son sac de plastique recyclable pour gagner assez d'argent et nourrir ses enfants. Sa santé est en danger et elle en est consciente.
Parfois, vous pouvez perdre votre grossesse de manière inattendue. Mais si vous changez votre environnement, vous pouvez avoir une grossesse réussie. Cependant, lorsque vous essayez de changer d'environnement, vous pouvez manquer d'opportunités de travail et vos enfants ont faim. Vous n'avez pas d'autre option que de revenir.
Donc si une femme est atteinte d'un cancer et qu'elle ne le sait pas, la plupart du temps, la première chose qui est affectée est son cycle menstruel. Cela peut être l'un des premiers signes des saignements abondants. Lorsqu'elle a des saignements abondants et irréguliers, cela peut être un signe avant-coureur de la présence d'un cancer, en particulier d'un cancer des organes reproducteurs.
L'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a entamé cette année à Nairobi des négociations en vue d'un accord mondial pour mettre fin à la pollution plastique.
L'un des principaux avantages que nous avons pu tirer de la résolution adoptée par l'UNEA pour mettre fin à la pollution plastique, c'est la reconnaissance des ramasseurs de déchets. Ils sont également reconnus comme des personnes qui jouent un rôle essentiel dans le système officiel de gestion des déchets.
Nous voici au terme de ce programme hebdomadaire « Votre santé, votre avenir ». Nous avions reçu le docteur Maurice Loubou, médecin traitant en gynéco-obstétrique à l'hôpital du Saint-Conteneur et à la polyclinique au Ukraine à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il a expliqué entre autres quelles sont les répercussions de la crise des clampsies sur la maman et le bébé, la prise en charge, mais aussi et surtout des mesures préventives contre les clampsies. Dans la deuxième partie de notre programme, vous avez suivi Carnet de santé avec Lino Moudou. Cette émission a été réalisée grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nani Talami. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.